Mission Vision avec Julie Châtelain.
Bonjour tout le monde, ici Julie Châtelain. Je suis très contente, je vous retrouve encore pour une autre belle émission de Mission Vision. Aujourd'hui, au niveau de l'handicap visuel, on va rencontrer un papa et sa fille. Le papa, Gilles Ouellette, en situation de handicap visuel. Sa fille, elle n'a pas d'handicap visuel, mais elle a connu son papa depuis qu'elle est née. Son papa a un handicap visuel, donc on va pouvoir en jaser durant toute l'émission, parce qu'on va aussi parler des hiboux de Montréal, parce que Gilles Ouellette en est le président et il y a un événement qui s'en vient, donc il va venir nous en parler. À mes côtés, Gilles Ouellette et sa fille, Noémie Ouellette. Gilles, président du club Les Hiboux de Montréal, hein, l'équipe de hockey sonore. Donc, plusieurs te connaissent déjà, hein, n'est-ce pas?
Oui, je pense que oui. Certaines personnes le connaissent.
Oui, oui, oui. Et en fait, là, moi, ce que je trouvais intéressant, ben, c'est ça, c'est que ta fille s'implique avec les hiboux, justement. Elle est bénévole depuis plusieurs années. Mais c'est le fait de la relation père-fille aussi, là, qu'elle n'est pas dans une situation où est-ce qu'elle a le défi visuel, mais elle a un papa qui est avec les défis. Donc moi, je voulais pouvoir aussi entendre... parce que c'est ça, tu as 17 ans, Noémie?
Oui, exactement.
C'est ça. Donc, à 17 ans, avoir un papa qui a un handicap visuel, puis en fait, tu le connais, il a tout le temps eu un handicap visuel, hein?
Oui, exactement. Dans le fond, mon père, depuis que je suis née, mais depuis que lui, il a 17 ans, il a un handicap visuel. Donc moi, quand je suis née, je suis née dans ce monde-là et j'ai pas eu besoin de m'adapter. Pour moi, c'est ça la norme, donc...
Ouais, c'est ça. C'est comme naturel pour toi, alors que si ça avait été un processus, que là, tout d'un coup, papa perd un peu plus de vue, là, c'est différent. Mais là, c'est comme si toi, il a tout le temps été comme ça.
Oui, exactement. Je pense que ça aurait été une histoire différente si, comme vous dites, s'il y aurait... mettons que j'aurais eu 15 ans, puis que là, il devient handicapé visuel, là, c'est sûr qu'il faut s'adapter, il faut changer son mode de vie, peut-être un peu aussi, ses habitudes de vie, puis... Sauf que vu que je suis née avec un papa qui est handicapé visuel, moi, pour moi, c'est ça qui est normal, c'est ça qu'on m'a appris. Tu sais, exemple, s'il me pose une question, je sais que je vais répondre avec des mots et pas en hochant la tête. Par exemple, si je suis à l'autre bout de la main, ben, tu sais, si je suis pas à côté de lui...
Autour de la table,
là. Ouais, c'est ça. Tu sais, même si je suis à côté de lui à la table, je vais pas répondre nécessairement avec un hochement de tête, je vais vraiment répondre avec des mots. Puis si mon expression faciale, tu sais, il la voit pas nécessairement, donc aussi, des fois, c'est ça qui fait un peu qu'on se pogne, parce que je fais beaucoup de sarcasme, puis vu qu'il voit pas mon expression faciale, des fois, ben là, il faut qu'il y ait ma mère qui fasse l'arbitre entre les deux, parce que là, des fois, c'est vraiment juste ça, mais à part ça, je pense que c'est pareil, là.
Puis moi, ce que je trouve intéressant, justement, ben là, monsieur Gilles, la perte de vision est arrivée, c'est ça, avant d'avoir les enfants.
Oui, moi, j'avais 17 ans quand j'ai perdu la vue. Donc, c'est arrivé en l'espace d'un été, là, J'ai fini mon secondaire 4, je voyais parfaitement. J'ai recommencé sur secondaire 5, j'avais perdu 95 % de ma vision, là. Fait que, j'ai eu mes enfants à 40 ans. Là, fait que
OK. Ouais. Mais la perte de vision, elle, est arrivée comme ça?
C'est la maladie de Leber que j'ai, qui donc, s'est déclenchée dans mon cas à 17 ans.
OK.
Donc, c'était vraiment soudain. Là, dans l'espace d'un été, j'ai perdu 95 % de la vision.
Donc, tout le début de ta vie, finalement, tu as appris à conduire, tout ça, là.
J'ai eu un permis de conduire à 16 ans. J'ai acheté une auto au mois de mars 2017, j'avais acheté une auto. Puis l'été 2017, j'ai arrêté de conduire. La dernière fois que j'ai conduit, je pense que j'avais une vision comme la mienne à peu près. Là. Parce que c'est en soirée 5, on commençait la première journée d'école dans le gestion notaire. Puis j'ai resté en campagne de Saint-Esprit, dans le coin de Joliette, un petit peu avant Joliette. Fait que j'avais juste une demi-journée d'école. Je disais, ah, je vais y aller en auto. Puis quand j'arrivais à l'école, c'est là que je me suis rendu compte que je n'étais pas capable de lire l'horaire qu'on me remettait. C'est là que j'ai commencé un petit peu à paniquer. T'sais.
De même, là.
Ouais, ben, tu sais.
Le matin, que, le ouais. matin, tu ben, vois, comme, mais.
Ben, je me rendais pas compte. Je promets que, tu sais, comme c'est arrivé progressivement, puis j'avais. Comme si j'ai perdu la vision centrale, tu sais, je trouvais que j'avais de misère à faire le focus pour faire certaines lectures, mais c'était comme pas. C'était pas dramatique. T'sais, l'été, tu lis moins. Je travaillais, j'avais un job d'été. J'étais plongeur dans un restaurant le soir, puis le jour, je faisais du peintre en bâtiment. Puis bon, comme tu sais, je peinture, il y a mur était gris, je peinturais jaune. Fait que c'était assez contrastant. Je m'en rendais pas tant compte. Puis l'adaptation s'est faite vraiment gratter automatiquement. Fait que c'est quand j'ai eu, je suis arrivé en soirée 5, la première journée, que là, j'avais de quoi aller, puis que là, j'étais pas capable de faire le focus pour lire, que là, ça a frappé en pleine face. Hein.
Puis à ce moment-là, cette maladie-là, est-ce que c'est quelque chose qui est génétique, héréditaire?
Oui, c'est quelque chose qui est génétique. C'est la maladie de la mère, donc c'est génétique. C'est transmis par la mère, puis généralement, c'est les garçons qui subissent la maladie.
OK.
Mais je suis pas supposé de la transmettre, mais c'est les garçons. Les hommes subissent la maladie, peuvent la développer, mais elle est transmise par la mère. Fait que j'avais une maison qui, lui, ça l'a déclenché à 35 ans, qui travaillait déjà, qui avait sa vie d'avancée. Mais à l'époque, dans les années 70, quand c'est lui est arrivé, il pensait que lui était laveur dans une buanderie dans l'hôpital Saint-Luc à l'époque, là, qui est l'ancien CHUM, le nouveau CHUM aujourd'hui.
Mm-hmm.
Il travaillait dans la buanderie, puis c'était des gros produits chimiques pour la vie, les draps contaminés, puis tout ça. Fait que le médecin avait comme évalué que c'était probablement les vapeurs chimiques qui avaient attaqué ses nerfs. Fait que... Donc, on n'a pas pensé que ça pouvait être héréditaire dans la famille. Là.
Ah ouais, OK.
Puis donc... moi, c'est arrivé comme 20, 10 ans, 15 ans plus tard. Fait que là, c'est là qu'on a trouvé que c'était héréditaire.
Donc, ça veut dire que dans ta famille, il y a uniquement ton oncle qui a un handicap visuel.
Exact.
Donc, c'était quasiment comme si c'était tout nouveau pour toi parce que personne ne s'attendait
à ça. Puis lui, sa vie était comme... Il a pu rester comme... Ils ont changé de poste, mais il a pu continuer à travailler où ce qu'il était. T'sais, il y avait déjà certains éléments d'établi. Moi, comme j'allais vers le secondaire 5, j'ai perdu ma vision. J'allais vers le cégep. Je voulais aller en sciences pures au cégep par la suite. Puis là, ben, je suis plus capable de lire, pas capable de voir au tableau. Il faut que je me réadapte. Donc, c'est pour ça que par la suite, je suis même allé. Là, il y avait des tests, on ne savait pas ce que j'avais. J'allais pas avoir la sclérose en plaque. Le temps qui détermine, c'est quoi le bon diagnostic. T'sais. Donc, ça a pris quelques temps. Donc, l'année a continué. J'ai diminué des cours dans mon horaire à l'époque au secondaire. Puis là, il y a un professeur de l'école Jean Coilette, qu'on appelait à l'époque les professeurs itinérants, qui est venu pour supporter l'école. Puis là, ben j'ai fini cette année-là, mais j'avais pas les cours de base en chimie pour aller au cégep. Puis je ne savais pas vraiment comment étudier comme personne non-voyante. Fait que, donc, ils m'ont proposé d'aller à l'école Jean Coilette la deuxième année pour aller apprendre le braille puis faire les cours qui me manquaient pour pouvoir rentrer au cégep. Fait que j'ai accepté ça. Donc,
fait que t'es allé à Jean Coilette, t'as appris le braille.
J'ai appris le braille.
Pour aller au cégep après.
Pour aller au cégep après. C'est là que c'était un changement d'avis que là j'ai vu. Parce que quand ça m'est arrivé, je connaissais aucune personne. T'sais, mon oncle, pour moi, c'était pas vraiment un exemple. Il avait déjà un emploi, il travaillait.
Mais des jeunes de ton âge.
Mais des jeunes de mon âge qui devaient faire un cheminement.
Ouais.
C'est là que c'était quand j'étais allé à Jean Coilette, parce que j'ai vu des professeurs qui étaient à l'époque à Jean Coilette, qui étaient non-voyants, qui avaient mon professeur qui m'enseignait le braille, lui était parti à 18-20 ans en France pour étudier la musique. Donc, il est parti en France en voyant pas. Puis là, lui, là, je parle des années 58, 60, 62 peut-être, là, dans ces années-là. T'sais. Le soir, bien, il écrivait en braille ses partitions de musique. Puis le jour où il allait à l'école pour non-voyants apprendre la musique là, là-bas. Fait que, t'sais, là, je dis, oh, mais attends une minute. Puis là, j'ai vu ma professeure de mathématiques. Elle avait un conjoint non-voyant. Son conjoint était accordeur de piano, mais il était propriétaire d'un quadruplex. tu sais, des gens qui ont réussi, qui, malgré un handicap visuel, oui, ont cheminé dans la vie, tu sais. Fait que j'ai fait, ah, ça me donne des exemples, t'sais. Donc, moi aussi.
Comme des exemples positifs.
Oui, exact. T'sais.
De dire que c'est ça qui est important possible.
Quand tu deviens handicapé visuel, c'est d'avoir des exemples. Puis donc, de là, j'ai fait, ah, ça m'a donné le goût, puis là, par la suite. Et là, je suis retourné la deuxième année, j'ai appris le braille, j'ai fait le cours de mathématiques, puis il me manquait chimie 5, physique aussi. Donc, je lui ai demandé de retourner une deuxième année, mais l'école, je ne pouvais pas m'offrir parce que c'était pas beaucoup de personnes. Fait que le jour, je m'ai accepté, mais il a fallu que le soir au cours à Gérard Filion, au cours de soir, faire les cours de chimie physique avec les voyants. Donc, c'était ma réintégration avec les personnes voyantes. Donc, le jour, j'allais à l'école Jean-Colette, puis le soir, à l'école des adultes, avec les voyants, faire le cours de chimie et de physique.
Et à ce moment-là, qu'est-ce que tu voulais faire? Est-ce que tu le savais?
J'avais des idées, mais peut-être je pensais aller vers la physiothérapie.
Ah, OK.
Je pensais, parce que je me rends sur un métier que tu peux toucher, tu peux, oui, faire ton physiothérapie. Fait que je pensais aller en physiothérapie. Puis là, ben, à coup, j'ai fait mes deux années de sciences pures au Cégep, sciences de la santé. J'ai dit, bon, j'ai relevé le défi, parce que c'est assez dur. Je pense que j'étais parmi les premiers. Par la suite, il y en a eu d'autres, mais à l'époque, on m'a dit que je suis peut-être parmi les premiers à faire un cours de sciences pures.
Mais c'est ça, j'allais dire. Sciences pures avec un handicap visuel, ouais, une cécité presque complète,
ouais,
là.
Presque complète.
Non, il n'y en a pas des masses,
c'est
là.
C'est ça. Fait que, après la terminaison de mon DEC, là, dans le sens, j'ai dit, bon, je pense que c'est assez les sciences.
Ouais.
Là, j'ai trouvé un autre chemin. J'ai rencontré un conseiller en orientation qui était au cégep du Vieux-Montréal, où j'ai fait mon cégep. Puis, il m'a invité à venir aller dans son cours, qui était elle a enseigné également dans le cours de développement de la carrière, qui est un bac multidisciplinaire à l'UQAM, où tu as de l'administration, de l'éducation, puis de la psychologie. Puis donc, c'est une voie qui m'intéressait, ça. Puis là, ben, de là, moi, j'ai fait le bac en développement de la carrière. Puis ma mission était, comme j'ai toujours aimé, c'est d'aider les personnes handicapées à s'intégrer sur le marché du travail, à devenir soit autant aux études, puis tout ça. Fait que, donc, ce bac-là, ça allait allumer des lumières en moi. Puis c'est là-dessus que je me suis dirigé. J'ai fait le bac universitaire en développement de la carrière.
Donc, pour venir finalement soutenir ces étudiants-là, on se retrouve des fois qu'ils vont focusser pendant le temps qu'ils sont à l'école, mais quand l'école est finie, après, c'est comme si,
ouais,
là, ils se retrouvent encore lancés dans la jungle.
Oui, c'est ça.
Et là, ça veut dire que là, toi, t'as fait ça.
J'ai fait le bac en développement de la carrière, puis à la fin, il y a un stage. Puis j'ai fait mon stage au CEMO Montérégie sur la Rive-Sud. Puis l'enlèvement, il y avait une pleine effervescence. Puis c'était à l'époque où les centres d'appel au Québec étaient en pleine effervescence.
Mm-hmm.
Donc, le directeur m'a dit, Jules, si tu développes un programme pour former des agents en service à clientèle pour personnes handicapées, on va déposer la demande à Emploi Québec. Puis si on obtient la subvention, c'est toi qui vas être le coordonnateur du projet.
Wow!
Fait que j'ai écrit le syllabus du programme, tu sais, qu'on,
oui,
pouvait faire, qui devait tenir une quinzaine de pages. On l'a déposé en Emploi Québec. On a obtenu la subvention pour faire le programme. Fait que j'ai développé le programme au complet qui devait être d'une durée de 40 semaines, où il y avait 33 semaines de cours puis 7 semaines de stage. Puis, donc, je coordonnais un groupe de 10 personnes handicapées visuelles,
wow,
à devenir agent service à la clientèle pour aller vers les centres d'appel ou tout type de service à la clientèle téléphonique. Puis, donc, après ça, je les intégrais en stage, en emploi, l'aider à faire les emplois, faire le CV. Je coordonnais les professeurs. Il y avait dans ce programme-là, il y avait des cours de français, de vocabulaire, de diction, de mathématiques, d'anglais, d'informatique. Donc, toutes les habiletés nécessaires pour être un bon agent d'appel téléphonique. Puis, coordonner ça. Puis, de là, ben, ça s'est fait. Je restais là pendant 4-5 ans. Puis, de là, il est arrivé une opportunité pour aller à l'Université du Québec dans un emploi de conseiller à l'intégration pour aider les,
oui,
personnes handicapées qui intègrent l'université afin de mettre des adaptations, des accompagnements
en place
pour pouvoir qu'ils, oui, puissent réussir leur cours. Donc, c'est un peu la même chose que j'avais faite au niveau de la coordination d'un programme de formation pour personnes handicapées, mais là, au sein de l'université, afin qu'ils puissent cheminer au sein de l'université avec leur cours et avec leur handicap en fonction de cet élément-là.
Donc, c'est ce que tu fais encore présentement?
Bien, depuis un an, je ne suis plus au niveau des étudiants en situation de handicap. Je suis au vice-rectorat de la recherche, communication et diffusion dans un mandat d'accessibilité. Là, je suis plus au niveau du vice-rectorat. Là.
Oui.
Donc, c'est un peu, tu connais-tu un peu la structure de
l'université?
Donc, il y a le vice-recteur à la recherche. Puis là, il y a eu une opportunité d'arriver vers ce rectorat-là qui, eux, voulaient avoir une personne pour s'occuper de l'accessibilité de la recherche, l'accessibilité de l'université.
Mm-hmm.
Donc, moi, ce défi-là m'intéressait. Donc, de là, je suis allé vers ça. Donc, depuis un an, je suis au vice-recteur de la recherche, communication et diffusion au niveau de l'accessibilité, de la recherche, de l'infrastructure, des laboratoires de recherche, des choses comme ça.
Mon Dieu, c'est vraiment inspirant.
Bien, merci.
Toi, Noémie, quand t'entends ton papa là, raconter tout ça, là, t'sais, je veux dire, toi, c'est ton père, tu le sais, mais parce que, tu sais, quand tu dis oui, mais moi, il a tout le temps été comme ça, fait que tu es habitué, tu l'as vu avec, tu l'as connu avec un handicap visuel et tout ça, mais est-ce que des fois, tu t'arrêtes puis tu fais waouh, tu sais, on s'entend que il aurait pu avoir beaucoup de bâtons dans ses roues,
oui.
Mais que finalement, il y a quelque chose de très inspirant dans le fait que, ben, il a avancé, puis il a avancé, puis il a viré de bord, puis il a changé son, tu sais, ah, je ferai pas ça, je vais faire ça, puis finalement, regarde où ce qui est rendu.
Oui, pour maintenant. Moi, c'est vraiment une grande source d'inspiration, parce que en ce moment, je suis au cégep en technique d'architecture, puis des fois, il y a des moments où je me dis, ah, c'est un peu plus difficile, ou même quand j'étais au secondaire, même chose, des fois, avec j'ai un TDA, fait que. Puis au secondaire, j'avais peut-être pas tous les accommodements que j'ai maintenant au cégep. Fait que des fois, c'était un peu plus difficile, mais je prenais du recul sur la situation. Puis, tu sais, mon père a tout le temps été là pour m'aider dans mes devoirs. Si j'avais des problèmes ou je stressais pour un examen, il prenait le temps avec moi à la table, on s'assisait, on révisait. Fait que pour moi, dès que je sais qu'il y a un petit truc que je me mets à stresser ou que je me demande si je vais être capable de réaliser ça, je me dis que. Tu sais, comme mon père, il a été capable, il a travaillé très fort pour être où est-ce qu'il en est maintenant. Donc, pour moi, c'est une grande source de motivation. Puis je me dis, si jamais j'ai un problème, je sais qu'il est là pour moi, il va m'aider dans n'importe quelle situation. Puis pour moi, c'est vraiment une grande source de motivation, là, comme je le dis. Là, je suis très fière. Quand il raconte ce qu'il vient de dire, là, je trouve que ça me rend fière d'avoir un père comme ça. Parce que... en plus, l'histoire qu'il vient de vous raconter, moi, c'est pas la première fois que je l'entends, évidemment, mais quand j'étais au primaire puis au secondaire, j'ai fait plusieurs présentations orales sur mon père parce que j'étais fière puis je voulais que les gens, ils savent un peu plus c'était quoi un handicap visuel.
Mm-hmm.
Fait que je vous dirais que rendu en sixième année du primaire, mettons que ma cohorte, ils savaient tous c'était quoi un handicap visuel. Toutes les fois qu'on avait un exposé oral libre, je faisais tout le temps sur l'handicap visuel slash mon père.
Ah, waouh! Ouais. C'est beau, ça!
Ouais.
C'est toute la cohorte qui est la plus sensibilisée du primaire de Saint-Rive-Sud à Saint-Hubert.
Même temps, toutes ces petites graines-là là, qui sont semées, là, c'est juste magnifique. Là. Il y a des petites fleurs qui vont pousser quand, on ne sait pas quand nécessairement, mais on le sait qu'il y a plein de petites graines qui ont été semés. Puis toi, Noémie, là, justement, t'as dit que t'avais un TDA.
Oui.
Donc, t'as quand même un défi.
Oui, un petit défi, là, je sais que... comparé à, comme mettons, mon père, c'est sûr que c'est pas pareil, mais oui.
Mais c'est pas pareil, mais t'as quand même un TDA.
Ouais.
Donc, t'as aussi des défis.
Ouais.
Il y a des moments où est-ce que ton TDA, il challenge un peu plus,
ouais.
Là.
Oui, exactement. Puis je suis chanceuse parce que ça a été diagnostiqué quand j'étais au primaire.
Mm-hmm.
Donc, puis ma mère aussi a un TDA, puis elle est médicamentée.
Oui.
Moi, jusqu'au début de mon cégep, je n'étais pas
médicamentée.
Oui, exactement. Mais j'ai toujours eu mon tiers-temps au primaire. Je pense que le fait qu'on savait c'était quoi depuis longtemps, ça m'a aidée à grandir avec. T'sais, je veux dire, je suis habituée... Je me suis trouvé des trucs.
Oui, tu as trouvé des stratégies.
T'sais, je sais que des fois, exemple, en rédaction, en français, je vais avoir... T'sais, je sais que je vais peut-être manquer de temps à la fin. Fait que t'sais, je vais peut-être passer l'étape du brouillon puis commencer le propre,
mm-hmm.
puis travailler le propre après, t'sais, parce que je sais que je vais pas avoir le temps sinon de brouillon, corriger, puis propre. J'ai pas le temps, là.
Oui.
C'est sûr, là. Puis maintenant que je suis au cégep... j'ai commencé la médication parce que c'est des plus gros cours, puis c'est surtout la durée du cours qui fait que c'est difficile.
Oui, c'est plus long, hein?
Parce que ma concentration, après 4 heures, ça commence à être dur, puis il m'en reste encore une, puis il y a un autre cours après, fait que j'ai commencé la médication, puis ça fait toute une différence, là. Je suis capable d'être concentrée pendant mon cours, entre mes cours, puis après l'école pour continuer à faire mes devoirs, parce que... Sinon,
puis t'as même du temps pour t'impliquer puis faire du bénévolat.
Ouais. Oui, oui.
Et ça, ça aussi, là, ça parle quand même de comment t'as naturellement cette sensibilité-là, parce que tu fais du bénévolat, oui, avec papa, là, t'sais, dans le club de hockey, mais quand même, t'es avec des personnes en situation de handicap visuel, dans un contexte qui n'est pas le tien, parce que, tu sais, oui, ton père, il a l'handicap visuel, mais là, tu te retrouves tout d'un coup avec plein de monde qui ont un handicap visuel. Qu'est-ce qui t'a donné envie de t'impliquer bénévolement? Parce que tu t'impliques quand même depuis 5 ans, là.
Oui, c'est exactement. Ça va être... En fait, c'est ma 5e année. Je commence ma 5e année.
Bon, oui. Alors, ça fait un bout, là.
Oui. Bien, je pense que ce qui m'a donné envie... D'être bénévole avec l'hibou. Ben déjà, il faut savoir que depuis que je suis bébé, mon père joue au hibou. Donc,
oui.
Donc, c'est...
Pendant qu'il jouait, t'étais déjà dans ta coquille à côté de lui, quasiment.
Exact,
là.
Exact. Fait que, mettons qu'il y a certains des hiboux qui m'ont vu toute jeune.
Oui, oui.
Moi, pour moi, c'est comme ma deuxième famille.
Ils t'ont vu grandir.
Exactement.
Hein, c'est ça, faire tes premiers pas. Et...
Ben, presque ça. Noémie est venue en carrosse à l'aréna. Il y a des joueurs actifs actuellement qui l'ont vu bébé. Là,
ouais. Que... Ben, tu sais, comme exemple, Pierre Brisebois,
Hugues Leduc,
Martin. Oui, c'est ça.
Martin Dufour, c'est tous des joueurs là, qui ont vu Noémie là, bébé. Là,
ben oui, mais ben, oui, mais c'est pour ça. Là. Donc, oui, quand tu dis un peu comme une histoire de famille, ben il y en a qui t'ont vu toute petite, puis là, tranquillement, jusqu'à t'impliquer.
Oui.
Donc, c'est beau,
puis
là.
Je me rappelle même quand j'étais plus jeune, tu sais, comme autour de 10 ans, peut-être un peu avant aussi. Tu sais, des fois, mettons que ça arrivait qu'il y avait un match exceptionnellement un samedi ou un dimanche, ben j'allais avec eux, je les accompagnais, puis j'aidais les bénévoles qui étaient là à ce moment-là. Je pense que c'était Léo, puis peut-être Michel, mais je sais pas si Michel était là, en tout cas.
Ah, Michel! Michel aussi!
Dauphinet, oui. Puis,
Dauphinet, ben oui, je le connais, Michel. T'es fait enlever un œil.
Ouais.
Oui, c'est ça. On parlait beaucoup ensemble.
Fait que j'allais là, puis j'aidais à remplir les bouteilles, j'aidais comme je pouvais, puis j'ai toujours eu un intérêt aussi pour les hiboux, puis le hockey en général, j'aime beaucoup ça.
Ouais.
Fait que, tu sais, quand j'étais plus jeune avec ma sœur, ma mère, on les a accompagnés un jour à Toronto, qui est un gros événement de hockey sonore.
Mm-hmm.
Puis, plus tard, quand j'étais rendue en secondaire 2, j'ai accompagné mon père, sans ma mère, mon père, première fois que j'ai été officiellement bénévole pour les hiboux, on va dire. J'étais désignée pour être bénévole avec mon papa et l'aider dans les déplacements, etc., à Toronto.
Mm-hmm.
Puis je pense que à partir de ce moment-là, j'ai jamais arrêté...
T'as pogné la piqueuse.
Oui, j'ai jamais arrêté d'aller au hiboux après ça, à chaque lundi soir. Donc, depuis secondaire 2, le tournoi à Toronto en mars... Depuis ce moment-là que je suis bénévole au hibou officiellement, puis que j'y retourne à chaque lundi avec le sourire aux lèvres, puis c'est tout un moment que j'attends.
Et qu'est-ce que ça t'apporte de t'impliquer?
Bien, j'ai toujours eu le plaisir d'aider les gens, de savoir que que je les aide, puis que ça leur fait du bien. Tu sais, moi, j'arrive là, j'ai un sourire, tu sais, même si c'est la fin de la journée, tu sais, moi, je leur donne mon énergie, puis je suis contente, je mets de l'ambiance, je mets de la musique. Tu sais, c'est le fun, c'est une bonne ambiance. Puis je pense que c'est ça, savoir que je les aide, je sais pas, moi, ça me fait du bien aussi. Donc, c'est quoi qu'on disait tantôt? J'ai complètement oublié.
Ben, tu sais, Noémie, comme elle dit, elle met de l'ambiance, c'est dynamique. Ça a vraiment changé la dynamique depuis qu'elle est allée, parce qu'elle met de la musique entre les périodes. Quand il y a un but, elle met la sirène, chose qu'on n'avait pas quand elle n'était pas là. T'sais.
OK, OK.
Donc, c'est des petits plus, vraiment. Elle va aider les joueurs qui ne trouvent pas, mettons, une pièce d'équipement dans leur sac.
Ouais.
C'est le petit coup de pouce supplémentaire que, on est capable, on est tous autonomes. On est juste là. Mais
oui.
C'est le petit facilitateur. C'est l'huile qui aide les deux plaques de métal à bien glisser. Tu sais.
Oui.
Donc, c'est le petit plus qu'elle apporte là, auprès de tout l'ensemble de l'équipe. Tu sais. Elle va toujours être volontaire pour aider un joueur qui cherche quelque chose, qui ne trouve pas. Puis là, ben là, il faut embarquer sa glace, on commence à être stressé, on veut se dépêcher. Donc, quand tu te dépêches, tu vois moins bien. Puis, donc, Noémie va arriver, puis toi avec son calme, puis elle va arriver, puis elle va trouver. Puis hop, ouais, regarde, t'as trouvé parfait, vas-y, tu sais.
Ah oui,
puis,
hein.
Puis, tu sais, on a eu un événement, là, en terminant cette saison, on a un joueur qui s'est blessé. Puis
oui.
L'ambulance était longue à arriver.
Oui, je suis, c'est mon ami.
Oui, mais il y en a eu.
Il y en a eu plus qu'un. Il y en a eu deux cette année. C'est horrible.
En ambulance?
Ouais, c'est ça. Non, il y en a eu deux, sérieusement, cette année.
Ah, OK.
Ça fait 40 ans qu'on existe, mais on a eu deux accidents d'ambulance.
C'est ça. Mais en tout cas, moi, il y a eu Pierre.
Puis il y a Jimmy aussi.
Ah, ben oui, c'est vrai. Mais lui, c'est arrivé avant.
Oui, c'est ça.
C'est ça.
Puis là, ben, tu sais, Noémie a resté avec Jimmy tout au long côté, aussi avec Pierre, tu sais, puis dès là, elle était calme. Fait que pour nous, Libou, on n'a plus qu'à continuer, mais tu sais, comme elle était là, prendre soin, chercher son équipement, acheter les choses, tu sais, fait que elle a su démontrer pour une jeune personne tout un calme, là, vraiment remarquable, là, à ce niveau-là, là, c'était vraiment... Ouais. C'est sublime le camp qu'elle a pu démontrer. Tu as géré la situation avec l'aide de d'autres personnes.
Ouais.
Mais tu sais, quand même, c'est elle qui est un petit peu en charge.
Ouais.
Je sais pas pourquoi, moi, dans ces situations-là, mais en fait, je pense que c'est une bonne chose. Tu sais, je suis capable de garder mon camp puis de me faire une liste dans ma tête des priorités puis tout ça. T'sais. Moi, tu sais, je suis pas infirmière. Je n'ai pas aucune formation à part premier soin parce que je suis maîtrise de 40 jours. Tu sais, c'est le max que j'ai
dans les
soins. Mais tu sais, j'étais là à côté de lui jusqu'à temps que l'ambulance arrive. C'était vraiment très, très, très long. Ça a pris à peu près plus qu'une heure. Sincèrement, je pense que c'était comme 2 heures.
Jimmy, c'était 1h15, 1h20, mais Pierre, c'était 1 heure.
Puis Pierre était blessé au dos, là.
Jimmy, lui, c'est 3 fractures à la cheville. C'était au début, quand c'est arrivé, il y avait encore l'adrénaline, donc il y avait pas. Tu sais, il y avait mal, mais.
Non, l'adrénaline.
On va pas insister sur les blessures, on va pas inviter trop de monde à venir jouer avec nous. Là.
Non, mais...
tout ce que je veux dire, c'est que je trouve que, tu sais, les joueurs, après le match, quand Jimmy avait, tu sais, comme il était blessé, puis il allait pas bien, tu sais, le côté famille, parce que je voyais dans le visage des gars qu'ils se sentaient mal pour Jimmy, puis que ça leur faisait quelque chose, puis ils venaient tout le temps checker, même si, tu sais, comme il fallait qu'ils changent, puis tout ça pour laisser la chambre. Après, tu sais, ils venaient voir s'il était correct, puis quand Jimmy est parti ensuite, même quand Pierre, même chose, ils sont venus me demander comment ça s'était passé, tout ça, fait que je trouve que c'est vraiment une bonne...
Ben,
famille, là.
Oui, vraiment. Ben, merci, Noémie. Merci, Pierre. Pierre, on vient tellement de parler de Pierre. Merci, Gilles. Pierre, pense à moi. Merci à vous deux. Puis là, on va faire une courte pause. Puis on va poursuivre. On va parler d'un événement qui s'en vient avec les hiboux.
Vous écoutez Mission Vision avec Julie Châtelain.
Et là, je poursuis avec Noémie et Gilles Ouellette. Et moi, juste avant la pause, mais là, j'ai pas eu le temps de poser la question, mais moi, ça me revenait. Je me disais, ça, je veux absolument qu'on aille là avec Noémie avant de plonger dans ce qui s'en vient avec les hiboux. Mais Noémie, moi, je voulais voir avec toi un petit peu parce que comme toi, tu n'as pas d'handicap visuel, ton papa en a un, tu t'impliques avec les hiboux, ils ont des handicaps visuels. Est-ce que toi, tu as quelque part une peur qui est là, qui existe de perdre la vue? Y a-tu ça qui va des fois venir, t'sais, une petite pensée qui vient te visiter mais qui repart? Ou pas du tout?
Mais c'est drôle parce que quand j'étais plus jeune, je savais pas que l'handicap de mon père, la maladie qu'il y a, c'était seulement transmissible par la mère. Donc moi, je pensais qu'à 17 ans, moi, j'allais devenir handicapée visuelle comme mon père. J'étais convaincue de ça. Puis dans ma tête, j'étais très jeune, là, c'était une évidence, c'était même pas une question. Fait que j'en ai pas vraiment parlé avec mon père ouvertement. Donc, c'est drôle parce que quand j'étais plus jeune, je me pratiquais à être aveugle.
Tu te pratiquais?
Ouais. Je fermais mes yeux, puis je faisais à semblant que j'étais aveugle pour voir ce que ça faisait, pour me pratiquer au jour que j'allais avoir 17 ans. Mmh. Donc, des fois, je marchais les yeux fermés, ou des fois, mettons que je m'ennuyais un peu en classe, je fermais mes yeux, puis genre, j'essayais de mémoriser où est-ce qu'ils étaient mes choses sur mon bureau. J'essayais de voir si j'étais capable d'écrire en fermant les yeux, des choses de même. Puis, je sais pas, je trouvais... Dans ma tête, c'était une évidence. À 17 ans, comme mon papa, j'allais devenir aveugle, donc je me pratiquais d'avance. Donc maintenant, je suis prête à toute éventualité. Je suis une professionnelle.
T'es prête à ça. Mais toi, Gilles, est-ce que tu le savais qu'elle faisait ça, qu'elle se pratiquait?
Non, je l'ai su, il n'y a pas longtemps.
OK.
Ouais.
Ouais.
Mais toi, comme justement, si je retourne ça de l'autre côté, ouais, dans le sens que toi, tu as perdu 95% de ta vision, tu avais 17 ans.
Ouais.
Depuis, ça n'a pas bougé.
Non.
Ça ne bougera pas.
C'est assez stable, à part de la vision que j'ai, de la vision périphérique qui me reste. Je parle un peu de vision, mais comme la vieillesse, un peu comme tout le monde.
Ouais.
Mais, de manière générale, c'est stable.
Tu as comme perdu quand même pas mal.
Tout ce que j'avais à perdre.
La bonne grosse. c'est ça, la bonne grosse partie est déjà partie.
Ouais.
Mais est-ce que justement, quand toi, tu as eu la réflexion de dire que tu voulais des enfants, est-ce qu'il y avait ça aussi,
dire... il y a un peu cette crainte-là, oui. C'est sûr qu'il avait quand même la crainte. Même si les médecins disaient, non, c'est pas transmissible. Bon, tu sais, en fin de compte, on a réalisé que ça l'était, tu sais. Bon, fait que, oui, il y avait un peu cette crainte-là, là. Fait que, tu sais...
Et y a-tu même eu un doute de dire, oh, je suis pas sûr que je vais avoir des enfants, c'est-tu une bonne idée?
Un peu, tu sais, c'est comme...
Ouais.
C'est surtout que, au départ... T'sais, comme moi, ma conjointe, on essayait, ça venait pas. Fait qu'on s'est dit, bon, est-ce qu'on force la nature? Est-ce qu'on fait comme... Puis là, c'était plus des questions comme ça, tu sais, comme... Là, ça va bien, mais on force la nature, puis on a un enfant peut-être qui a un handicap. Puis en fin de compte, ben Noémie est un bébé surprise. 16 ans, après 16 ans de mariage, Noémie est arrivée, puis...
C'était pas prévu.
Ben, c'était...
Ben...
Non. On essayait, mais avant ça, on essayait plus. Oui, on essayait.
C'est ça.
C'est comme, tu sais, c'était pas comme... Oui, c'était pas prévu.
Oui,
c'était pas...
c'est ça.
C'était voulu, mais pas prévu.
C'était voulu, mais quand...
Ouais.
On savait pas, là.
C'est ça.
Puis justement, ta femme, elle avait-tu aussi ça, tu sais, cette espèce de peur, là, de dire...
Ma conjointe, c'est une femme assez très ouverte. Je pense pas qu'elle avait... Je pense qu'elle avait moins que moi, tu sais.
OK.
Peut-être, puis elle dit, pour elle, il n'y a pas de différence. On va l'éduquer, tu sais, si, tandis qu'on va l'éduquer comme on doit l'éduquer. Puis elle dit, on te voit, t'es fonctionnel, tu fonctionnes bien, fait que... C'est ça, tu sais, fait qu'on n'aurait pas surcouvrir un enfant qui aurait été handicapé, là.
Mais elle aussi, elle avait déjà l'ouverture d'être
en relation avec une personne handicapée, c'est ça.
Fait que déjà, elle avait une sensibilité, donc, oui, de dire qu'elle a un enfant. Ça m'aurait étonné qu'elle dise « mon mari peut être aveugle, mais
pas mon enfant. »
Pas mon enfant, c'est ça. Mais moi, je le sais, moi, c'est complètement autre chose parce que moi, c'est dégénératif. Donc, moi, ça fait que je suis née, je voyais de cette façon-là. Mes parents m'ont pris comme ça. Puis là, après ça, au fil des années, il y a comme des explications qui se sont rajoutées sur ce que j'ai, la complexité. Et j'ai eu aussi cette réflexion-là, ma mère, là, tu sais, de dire... Tu sais, moi, j'ai mis au monde un enfant qui avait juste une myopie, là.
Ouais.
Puis là, tout d'un coup, mon enfant, on me dit qu'elle va être aveugle. Non. Tu sais, c'était pas comme dans le contrat, là.
Ouais, c'est pas dans le contrat.
Tu sais, fait c'est pour ça que je dis ça, parce que, tu sais, des fois, c'est ça aussi, tu sais, c'est de dire, ouais, ben là, à voir, comme là, c'est Noémie.
Ouais.
Tu sais, tu vois, mais... Est-ce que, justement, le fait de fréquenter les hiboux, tu vois aussi qu'il y a toutes sortes d'handicaps visuels,
puis
qu'il y a des choses que quelqu'un qui va avoir 17 ans peut perdre 95% de sa vue, d'autres, c'est à la naissance, puis d'autres, c'est rendu à 45 ans, comme Pierre Brisebois, là, tu sais, que lui,
exact.
C'est arrivé vraiment sur le tard, mais c'est arrivé.
Mm-hmm. Exactement, comme avec les hiboux, ça me permet de voir toutes les horizons, toutes les sortes d'handicaps visuels qu'il peut y avoir. Puis, juste revenir un peu, comme tu me demandais si j'avais déjà eu peur, j'ai réfléchi pendant que papa parlait, mais mettons que pour X, Y raison, maintenant, je deviendrais aveugle.
Mm-hmm.
Je pense pas que ça me stresse. Tu sais, c'est sûr, je vais trouver ça un peu dommage. Je vais peut-être trouver ça triste. Mais j'ai tellement un bon exemple autour de moi, mon père, mais plusieurs personnes autour mm-hmm. de moi. J'ai déjà un entourage de personnes handicapées visuelles qui ont réussi ouais. leur vie, qui ont une maison, qui ont des enfants. Tu sais, ils travaillent, ils ont des activités, etc. Donc, tu sais, je sais que c'est possible d'avoir une vie super le fun, puis presque normale, même si t'as un handicap visuel. Donc, tu sais, mettons qu'il y aurait un accident puis que je viendrais aveugle, je sais qu'autour de moi, il y a tellement de bons exemples que, tu sais, ça me stresse pas tant que ça en ce moment, même si ça serait pas la maladie de mon père que je développerais, tu sais.
Mm-hmm.
Parce que, tu sais, je veux dire, j'ai tellement été, comment on dit ça, dans le bain,
oui.
tu sais, des handicaps visuels et des handicaps en général. J'ai été, tu sais, je suis née là-dedans, fait que ça me stresse pas tant que ça parce que je sais que c'est possible de réussir même avec un handicap visuel ou peu importe.
Mais c'est beau, je trouve ça super inspirant de t'entendre parce que la peur que la plupart des humains ont, c'est de oui. perdre la vue.
Ben oui.
Parce que la vue, ce sens-là, prend tellement toute
oui.
la place.
Toute son importance. J'ai déjà vu une étude qui disait que, mettons, entre le cancer, le sida, perdre la vue, la perte
c'est
de la vue,
perdre
ça arrive
la vue.
En premier qui arrive. Là.
Ah mm-hmm. oui, oui. Puis tu sais, les gens, souvent, c'est comme... Moi, des fois, j'essaie d'aller questionner des personnes qui n'ont pas d'handicap visuel, puis qui sont pas dans une situation où est-ce que même y en ont autour d'eux, mm-hmm. ou tu sais, mais vraiment juste de dire non, là, attends, là. Tu te lèves, tu vois, cinq minutes après, tu essaies de lire quelque chose, tu le vois plus. Mm-hmm. Comme ça, là, tu sais, ça peut arriver comme mm-hmm. ça, là, bang, là. Tu fais quoi? Bien, on dirait que cette mm-hmm. réflexion-là, les gens veulent même pas y aller.
Mm-hmm.
Parce que c'est comme tellement. Tu sais, juste tout ce qui a le rapport à la beauté, tu sais, les réseaux sociaux, ouais. Tu sais, tout ça, là, comment qu'il y a des choses, tu sais, que... Mais oui, mais c'est visuel, ça se passe dans les yeux. Mm-hmm. Ben, il s'agit que tu vois plus, puis t'es déconnecté de ça.
Ouais.
Ça fait peur, là, pour les gens, là, de penser qu'ils se retrouvent, tu sais, déconnectés mm-hmm. du monde. Parce que c'est un ouais. peu ça fait. Comme quand tu perds la vue, t'es déconnecté du monde. Toi, t'as-tu ça, des fois?
Cette peur-là?
Oui, qui remonte, tu sais, de dire, mais... « Hey!
Bien, c'est sûr que oui, tu sais, je veux dire, je pense que... c'est sûr j'ai une crainte, mais... Je pense que c'est plus les gens qui vont avoir vraiment très peur de ça. C'est surtout peut-être parce qu'il y a un peu d'inconnu là-dedans, mm-hmm. de ne pas savoir comme c'est quoi les options qu'ils ont après. Parce que, tu sais, exemple, moi, quand j'ai commencé à connaître mes amis, quand je suis rentrée au secondaire, par exemple, on me posait plein de questions sur les handicaps visuels parce que pour eux, c'est un monde complètement inconnu.
Oui.
Et ça m'a fait réaliser que effectivement pour ceux qui n'ont pas de personnes handicapées dans leur entourage...
Ben oui.
C'est les questions qu'on m'a posées, je m'attendais vraiment pas à ça. Tu sais, moi, ça me fait plaisir de répondre aux questions et je vais répondre, tu sais, comme avec grande ouverture. Puis, tu sais, comme je suis consciente que les gens n'ont pas tous quelqu'un handicapé visuel dans leur vie.
Mais oui.
Mais je vais donner un exemple. À un moment donné, on m'a demandé, en fait, je vais en donner deux. Comment est-ce que ton père fait pour manger? Comment ton père fait pour s'habiller? Est-ce que tu l'aides à s'habiller? Tu l'aides à se manger, etc.? Ou un jour, on m'a demandé, ça m'a fait rire un peu, comment tu fais pour parler à ton père? Est-ce que tu lui fais des langages, des signes?
Oh.
Tu sais, il mélangeait les handicaps
ouais.
possibles. Et ça m'a fait réaliser, comme je dis, que pour ceux qui ont pas ces connaissances-là, c'est ouais. complètement inconnu, puis... ça m'a fait rire un peu sur le coup, mais tu sais, je sais pas, ça, je trouve que c'est. Peut-être qu'il y a des gens qui devraient. Tu sais, comme. Je pense que c'est une bonne chose qu'on en parle.
Ben oui.
Puis tu sais, moi, j'en parle très souvent à n'importe qui que je croise dans ma vie, là. Mais ouais. même si je viens de commencer à te connaître, les bouts où mon père vont entrer dans la conversation,
c'est ça,
là.
Ça sera pas
tout
long.
Temps, tout
ben, tu vois, justement, Gilles, est-ce que t'es capable de manger tout seul?
Ça, ouais, non, ça va assez bien.
Ça va assez bien, hein?
Ça, c'est
tu sais, pour dire aux gens que finalement, Tu te débrouilles, tu es capable de manger tout seul et tu n'as pas besoin d'une bavette.
Non seulement ça, mais en plus, c'est un excellent père. Parce qu'on me demande souvent, des fois, comme qu'est-ce que ça fait d'avoir un papa handicapé visuel.
Oui.
Puis moi, je veux dire, des fois, quand on me pose cette question-là, je ne sais pas quoi répondre sur le coup parce que ma réponse, c'est OK, mais ça fait quoi d'avoir un papa pas handicapé visuel?
Oui, c'est ça.
Pour moi, c'est la norme. Pour moi, c'est normal. Puis. Je veux dire, quand je vois les papas de mes amis, par exemple, je trouve que mon père fait exactement la même job que leur père. Des fois, tu sais, ça arrive, des fois, il fait tout, tu sais, comme que les papas, ils font.
Mais différemment.
Exactement. Tu sais, il va s'impliquer dans nos études, il s'implique, il s'occupe qu'on fasse bien nos devoirs, il prépare le souper le soir avec ma mère. La fin de semaine, il va préparer un déjeuner, ça, c'est vraiment cool. Chaque fin de semaine, petit déjeuner.
Petit déjeuner.
Vraiment bien. Ouais, hein? Un brunch.
Avec une poêle.
Avec une plaque.
Avec des poêle, choses qu'on puisse brûler.
Ouais. Oui, oui, tout à fait.
Tu sais, hein, toutes ces choses-là.
Quelques brûlures, tu sais, tout ça,
mais
c'est
oui.
Chaud.
Oh, mais
les enfants, cache pas. Ben oui, mais faut que ça, je le vois pas.
Mais oui. Mais non, mais ça fait partie du truc.
Ouais.
Mais tu sais, de même faire, mettons, de la surveillance d'un enfant. Tu sais, c'est sûr que toi, ta surveillance, t'as fait pas pareil. Si t'as ta petite poupoune de 2 ans... qui est en train de jouer dans le parc, c'est sûr que si tu surveilles, tu ne seras pas assis aux mêmes places que les autres personnes seraient.
On avait développé un code.
Parce qu'ils voient.
On a développé un code. On avait développé que si je sifflais d'une telle façon, elle devait répondre parce que je ne la voyais plus.
Ah, wow!
Mais comme... Puis en plus, je n'ai pas une voix qui porte. Si je parle fort, je n'ai pas une voix qui porte.
Oui.
Fait que, mais en sifflant, Ça va, le sifflet va aller plus loin. Fait que là, Nomi, elle savait, elle a 5 ans. Je suis ici, pas.
Oui, je savais qu'il me cherchait, mettons, dans un magasin. Si je n'étais pas dans la même allée, il faisait ce sifflement-là.
Wow.
Puis j'arrivais.
Comme 2 notes, là.
Oui,
Puis c'était votre code.
Oui.
Puis toi, tu répondais.
Oui, puis mettons, même dans la maison, quand il n'y a pas envie de crier, ou il m'appelle de même, puis là, je suis comme, ah, oh, quoi, qu'est-ce qu'il y a? Ou c'est comme. Je sais que c'est à moi qui parle ou à ma sœur.
Mais
c'est surtout moi puis lui. Je pense qu'on a une bonne complicité là-dessus.
Ça, je trouve ça le fun de dire que c'est ça. Il y a comme un moment donné de dire tu peux pas faire les choses de la même façon parce qu'on va pas se le cacher. Il y a un handicap visuel. Donc, c'est sûr que tu peux pas faire les choses de la même façon que quelqu'un qui voit. C'est sûr.
Faut trouver des façons de
fonctionner. C'est ça. D'autres façons. Et que, naturellement, dans ton quotidien, ça paraît plus parce que t'es tellement rendu habitué.
Mm.
Mais ça demande de l'adaptation.
C'est ça.
Puis c'est pour ça aussi que même avec ton travail, tu le vois avec les étudiants. T'sais, tu peux les amener à faire leurs études comme les autres, mais ils ont besoin d'avoir plusieurs adaptations.
Il faut juste trouver la voie pour qu'ils puissent le faire.
Pour le faire, c'est ça.
Il y a plusieurs façons de monter une montagne, tu sais.
Mais oui.
On peut la monter en voie directe, on peut monter progressivement en faisant le tour. Ça va juste être plus long, mais on va y arriver pareil.
Mm-hmm.
On peut se faire porter par quelqu'un d'autre, monter en montagne, ça c'est plus facile, là, mais pour toi, quand tu sais qui se fait porter,
mais oui.
T'es allé quand même en haut, tu sais. Fait que je veux dire, il y a différentes façons. Puis dans mon travail, c'est de trouver des façons, puis dans ma vie, puis c'est un peu aussi à Noémie que les choses que j'essaie d'y enseigner, tu sais. Différentes façons de faire les choses, trouve la tienne, tu sais.
Oui.
Fait que je pense qu'elle a bien trouvé, mais c'est ça. C'est comme ça la vie, hein. Il faut trouver sa voie. Puis...
Oui, mais je pense qu'on le voit, toute la force qu'elle a en elle, là. Son papa était un beau modèle pour elle. Et à chaque fois que je fais un petit compliment, on le voit, il y a comme un petit... je sais pas comment le prendre. Mais, OK. Puis là, on a parlé des hiboux. Puis là, toi, Noémie, tu t'impliques dans les hiboux. Toi, Gilles, tu joues depuis la nuit des temps. Tu es président aussi du club.
Vu, c'est vieux que ça. Oui, c'est vieux. Oui, depuis, je suis président du club depuis 2005, puis je joue depuis 2000.
Ben c'est ça. Ouais. Donc, ça fait...
20 ans président, 26 ans joueur.
C'est ça. Ouais. Donc, une grande carrière.
Ouais.
Et grande carrière, grand pouvoir. Il y a un événement qui s'en vient bientôt. Oui. Un genre de marathon, hockey, Guinness, record Guinness, tout ça mis ensemble.
Tout ça mis ensemble.
OK, ça, c'est quoi?
Bien, c'est ça, on travaille à on veut créer un record Guinness du plus long match de hockey sonore.
Sonore.
Parce que ça existe, là, il existe le plus long match de hockey qui se fait en Alberta tous les deux ans. Eux sont rendus à 221 heures de hockey à jouer, tu sais.
Mais ils voient. Mais oui.
C'est pour ça que nous, notre particularité, c'est de faire le plus long match de hockey sonore.
Mm-hmm.
Donc, on a déposé une demande à Guinness. Et puis, malheureusement, on n'a pas encore l'acceptation. Puis là, on commence à être un peu stressé. Fait que de là qu'on a comme... On a repoussé l'événement en 2026 pour le record Guinness. Mais ce qu'on va faire au mois de mai prochain, c'est de se pratiquer à... Puis on veut faire un match de 4 heures. Parce que le record Guinness qu'on veut faire, il va être de 8 heures. Pour commencer, ça va être... Donc, on va en 2026.
Le 8 heures, dans le fond, c'est parce que 8, ça n'a jamais été dépassé.
Ça n'a jamais été... Ben, 4 heures, en hockey sonore, ça n'a jamais été fait, mais tu sais...
Ben, même 4 heures, c'est du stock,
là. C'est un peu pour se trouver... Là, parce que quand on fait 4 heures, il va y a des joueurs qui ont des pauses, il va y avoir des trios qui auront des pauses.
On va
trouver une sorte de routine, tu sais, de fonctionnement. Il nous faut des bénévoles. Fait que c'est comme un avant Guinness qu'on veut faire au mois de mai prochain. Puis, tu sais, comme Noémie, avoir la liste, moi, je vais lui préparer la liste des joueurs, puis elle va dire à tel joueur que cette période-ci, c'est toi qui es en repos, tu peux te reposer, tu joues pas.
Ouais.
Les autres, ceux qui sont en repos, vont embarquer. Donc, tu sais, il faut comme avoir une routine, puis, tu sais, on veut que ça dure 8 heures, mais on veut qu'il y ait vraiment 8 heures de jeu, comme là, quand on va se pratiquer, ça va être pour 4 heures. Donc, au mois de mai, on fait la pratique un peu de ça.
Comme la générale?
Oui, un peu comme une générale. T'en plais ça, c'est un bon terme, merci. On veut faire la générale.
Ça c'est quand?
Ça va être le deuxième samedi de mai.
OK.
Possiblement. Là, on attend la confirmation de l'aréna. Comme ça a bougé beaucoup depuis qu'on s'était comme confirmé.
Oui, c'est ça.
Ça a comme bougé. Mais là,
je comprends d'avoir repoussé.
Oui, bien, on a repoussé le Guinness parce que on n'avait pas l'acceptation. Puis que quand tu viens avec Guinness, quand il t'accepte, ça vient avec un cahier de charge.
Wow.
Puis on ne voulait pas être stressé pour manquer cet événement-là. Puis comme on dit, on n'a pas l'occasion de faire deux fois une bonne première impression. Hein? C'est comme Fait que donc, le record Guinness, quand on va l'homologuer, bien, on voulait bien le réussir. Fait que donc là, on voulait prendre le temps de faire les choses. Fait qu'on dit, on va le temps d'avoir l'acceptation, que notre demande soit acceptée. Il y a toutes les choses qui viennent avec ça.
OK.
Bien comprendre le cahier de charge. Donc, ça va être le Guinness va être en mai 26.
OK, le Guinness va être en mai...
Avril 2026, oui.
Papa, on est en 2026.
On est en 2026.
27, excuse-moi.
OK, c'est ça, parce que là, quand tu disais que ça a été repoussé, mais là, tu me parlais de mai.
Oui, parce que dans ma tête, je suis encore en 25, c'est pour ça.
OK, c'est ça.
Oui, donc en 27.
Alors, 2026, en mai, le deuxième du mois de mai.
Oui, ça va être la générale.
La générale. Et là... avec les Guinness, 2027.
Oui.
Mai.
Oui.
Donc, un an plus tard.
Oui. Qu'on va probablement aussi organiser en collaboration avec Altergo.
Altergo.
Qui font le défi sportif. Là.
Oui.
Donc, Altergo va probablement nous aider à faire le record Guinness au niveau de leur infrastructure des communications.
Pour le 2027.
Pour le 2027.
Mais pour la générale, est-ce qu'Altergo va être là-dedans?
Va nous aider peut-être un peu pour la réservation d'aréna, quelques petites choses comme ça. Mais après, parce que là, bientôt, là, ça commence leur défi sportif.
Oui, c'est pour ça.
Donc, mais ça va être après le défi sportif, là, quand nous, on va être notre général, puis ils vont nous aider pour quelques aspects.
OK.
Donc, mais ça ne sera pas dans le cadre du défi sportif qu'on fait à la générale.
Tandis
mais
que...
le Guinness devrait être dans le cadre du défi sportif.
En 2027, là, ça serait vraiment au même moment que le défi Altergo... Oui. Et possiblement, Altergo va bénéficier de Guinness.
Oui, mais alors, eux sont emballés aussi de pouvoir nous aider là-dedans puis de donner de la visibilité au hockey sonore. Puis on espère que ça va donner de la visibilité. Parce qu'on veut faire connaître le hockey sonore, on veut faire connaître Altergo. Il y aura des joueurs du Canada qui vont venir au record Guinness parce que, tu sais, on va probablement...
Des joueurs du Canada...
Anglais. Du Canada. Est-ce que ça sera pas un record?
Des joueurs du Canada anglais hockey sonore?
Oui.
OK.
Oui.
Parce que ça a l'air de quoi, le hockey sonore, concrètement? Là tu dis, tu sais, du côté anglophone, mais ça ressemble un peu à quoi, le monde du hockey sonore?
Bien, ça ressemble qu'au Canada, il y a environ entre 350 et 400 joueurs. Justement, la fin de semaine... qui sont pas de la fin de semaine du 20, 21 et 22 mars.
Oui.
2026. Ça va être le 12e tournoi national d'hockey sonore à Toronto.
OK.
Donc, c'est un grand événement qui existe depuis 12 ans. Puis que les Hiboux, avec l'équipe de Toronto et l'équipe de Vancouver, est un peu les précurseurs de se réunir et de faire cet événement-là. Puis de là, Hockey Sonore est né. Il y a un événement, un grand tournoi où les joueurs les Américains sont là. Il y a des joueurs de l'Angleterre, de l'Islande, de la Finlande qui s'y viennent. Il y a moins de joueurs un peu à travers le monde, mais... Canada, États-Unis, là, c'est beaucoup. Canada, comme je te dis, c'est environ 400 joueurs. États-Unis, autour de 600, je crois. Je n'ai pas les derniers chiffres. Là. Puis, il y a des joueurs aussi là, à travers le pays. Donc,
OK, puis au Québec?
Au Québec, les Hiboux, c'est le seul club de hockey sonore.
Ah, c'est ça?
Ouais,
au Québec, c'est uniquement les Hiboux.
C'est les Hiboux.
Qu'est-ce qui fait que... il n'y a pas d'autres cellules qui poussent un peu partout... Dans le Québec?
Bien, il faut la masse critique pour avoir un nombre de joueurs. Parce que, tu sais, jouer au hockey, c'est pas comme une équipe de goalball où tu as trois joueurs sur le terrain.
Oui.
Donc, jouer au hockey, il te faut minimalement de 7-8 joueurs par équipe si tu veux jouer. Donc, il te faut une masse critique de personnes handicapées visuelles. Il faut une aréna. Il faut que tu puisses te déplacer. Donc, Montréal, on a la configuration.
Oui.
On joue à l'aréna Francis Bouillon, qui est à côté du métro Préfontaine.
C'est plus facile pour l'accessibilité.
Tu sais. Puis, avoir un réseau de bénévoles. Bon, on a Binoimi qui est maintenant qui est avec nous.
Mm-hmm.
Mais tu sais, on a des bénévoles comme Robert Ginac, Frédéric Angers.
Des personnes qui ne sont pas en situation d'handicap.
Des personnes qui ne sont pas en situation d'handicap, mais qui donnent un excellent coup de main. Tu sais, comme quand on a besoin d'un camion pour déplacer de l'équipement, ben,
mm-hmm.
Robert Ginac a un camion, il nous aide. Frédéric Angers est arbitre aussi avec Robert et Duc. Tu sais, on a des arbitres, on a des gens qui viennent nous aider.
C'est ce que vous êtes
tout le temps
un peu à la recherche de bénévoles?
On a toujours besoin de bénévoles. Donc, s'il y a des gens qui nous écoutent et qui pensent qu'ils pourraient donner, qu'ils veulent donner un coup de main, on est toujours prêt à recevoir de l'aide.
Mm-hmm.
On est toujours à la recherche de bénévoles, de recherche de nouveaux joueurs. C'est des joueurs autant gars que filles.
Oui. Y a-tu des filles?
On a déjà eu des filles dans le passé.
Mais pas en ce moment.
Pas en ce moment. Mais on est ouvert à la joie. Mais il y a des filles voyantes qui sont des fois venues jouer avec nous. Mais des filles handicapées, il y en a eu dans le passé. Qui sont déjà venus jouer, mais on n'en a pas accès en ce moment.
Est-ce que ça serait... Parce que dans le fond, vu que c'est hockey sonore, est-ce qu'il est question que ça soit comme un peu le goalball, c'est uniquement des personnes en situation de handicap visuel, ou au hockey sonore, bien, il pourrait avoir des personnes qui n'ont pas d'handicap visuel, mais qui viennent jouer, exemple, avec un bandeau?
Oui, non. Oui. Oui, mais non.
Oui, mais
sens,
non.
Dans le sens que, oui, on accède des joueurs, mettons, pour compléter des équipes, pour que ce soit un jeu plus agréable, si on n'a pas assez d'handicapés dans l'équipe un soir, on va prendre des joueurs voyants.
Oui.
Mais ils n'auront pas de bandeau.
Ah!
Tu sais, toi, moi, on est habitué de vivre avec notre handicap. On a développé notre proprioception, qui est la capacité
oui.
de savoir ce qu'est notre corps dans l'espace. Mais je mets un bandeau à un joueur, un voyant, je mets un bandeau en dessous de son casque de hockey, puis j'envoie être patiner à full pin.
Mais non.
C'est plus dangereux pour lui et pour nous, tu sais.
Oui, dans le fond, c'est mieux qu'il vienne jouer
oui.
en voyant
oui.
qu'il joue
mais,
tout d'un coup,
mais
qu'il est aveugle.
Dans le sens qu'il ne peut pas marquer de but contre nos gardiens
visuels,
tu comprends?
Non, non,
donc,
c'est ça.
Donc, il va aider, il va faire des passes, il va intercepter, il peut tout faire sur la
oui.
glace, sauf marquer un but.
Oui, puis en même temps, une personne qui a un handicap, qui n'a pas d'handicap visuel, qui vient jouer au hockey avec des personnes en situation de handicap, bien là, on s'entend aussi là, que la personne, l'objectif, c'est pas de planter tout le monde puis de faire comme « Hey, 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 je peux faire des passes,
non,
personne
ça,
me
t'sais.
Voit. » Puis
c'est
collaboratif.
C'est collaboratif.
Là.
Les hiboux, c'est un sport inclusif. On
c'est
vit
ça.
Moi, mon travail c'est au sein des hiboux, c'est de rendre que tout le monde ait du plaisir. Quand on accueille un nouveau joueur, là, ce soir-là, quand on a le joueur le plus important sur la glace, c'est le nouveau. Il faut qu'il, quand il sort de la glace, il me dit « Gilles, j'ai eu du plaisir, je reviens la semaine prochaine.
Ouais. »
Les hiboux, puis il y a plein de joueurs que tu pourrais t'en parler, les hiboux, ça change des vies. Les hiboux, c'est une histoire de famille, on fait des activités l'été. Donc, quand on recueille un nouveau, le joueur le plus important ce soir-là, c'est le nouveau. Fait que, tu sais, quand on a des personnes voyantes, pour revenir à ce que tu disais juste un petit peu avant, qui viennent... Puis, s'ils viennent faire des tours de piste autour de personnes handicapées pour se montrer comment ils sont bons, ça va être le seul soir qu'ils vont jouer avec nous.
T'sais. Ça marchera pas.
Il faut qu'ils viennent comprendre qu'ils sont là pour aider un jeu. Ils sont là aussi pour avoir du plaisir.
Mais oui.
Mais le sport est là pour les handicapés visuels.
Exact. Et là, t'as dit que dans le fond, l'événement général, c'est le deuxième samedi de mai. Ça, c'est, est-ce que c'est accessible pour monsieur, madame, tout le monde?
Oui, que les gens viennent nous voir, ça va à l'aréna Saint-Michel. J'ai pas l'adresse.
Saint-Michel.
À Montréal, à Saint-Michel.
À Saint-Michel?
Oui.
Saint-Michel.
Oui, c'est la rue Saint-Michel, pas tellement loin, là.
Oui?
C'est à Montréal, oui.
Bien, dans Rosemont, petite patrie,
c'est ça,
là.
Exact.
Mon Dieu, c'est quasiment à côté de chez moi.
Oui, bien, on se peut te voir.
J'ai quasiment pas de raison
T'as-tu
de pas.
Tu des patins?
non, par contre. Oui, j'en ai, mais. Je garantis.
On va te prêter l'équipement.
Puis les informations sont où? Y a-tu un site
Internet?
On va les mettre
sur notre site des hiboux, on va les mettre.
OK. OK. Le site Internet, les hiboux.
Hiboudemontréal.org.
Org. Ben, merci beaucoup, Gilles. Ça a été un grand plaisir. Et merci, Noémie. J'ai trouvé ça vraiment beau de vous entendre,
merci
les deux.
Merci de nous avoir reçus.
Vraiment. Et eh bien, moi, je remercie tout le monde dans cette émission avec Mathieu à la mise en onde. On est rendu là, Mathieu. Hein? Et je vous souhaite une belle semaine. On se retrouve la semaine prochaine. Bye bye tout le monde.